D'accord. Bon, je crois qu'on va commencer, si tout le monde est d'accord. Voilà. Donc, ce soir, j'aimerais vous parler donc de Schopenhauer et de Nietzsche, l'articulation entre les deux, en quoi Nietzsche a été influencé par Schopenhauer. Alors, effectivement, Nietzsche est sans doute la figure que vous connaissez le mieux. C'est celui dont beaucoup d'entre vous, je pense, ont lu des écrits. Alors effectivement, la compréhension de Nietzsche, les accusations qui lui sont portées, les blâmes, etc., sur son éventuelle influence sur le national-socialisme, etc., sur le nationalisme allemand, ça a fait couler énormément d'encre. On pourra revenir, si vous voulez, là-dessus plus tard lors de la partie plutôt consacrée à la discussion et au débat. Alors celui que vous connaissez sans doute le moins bien, c'est Schopenhauer. Donc Arthur Schopenhauer, auteur du 20e siècle, pardon, 19e siècle, autant pour moi, qui a donc écrit comment dire, sa thèse sur la quadruple racine de la raison suffisante, terme assez barbare, et qui a écrit la première édition de son œuvre majeure, donc Le monde comme volonté et comme représentation, Die Welt als Wille und Vorstellung, en allemand, en 1918, Principe de raison suffisante, oui. Quadruple racine. Et donc, le monde comme volonté et comme représentation dans la première édition date de 1918, 1818, pardon, 1818 et les suivantes rééditions au milieu du 19e siècle. Donc, Schopenhauer est extrêmement influencé par la philosophie de Kant, donc auteur du 18e siècle, auteur de la fin du 18e siècle, considéré comme un des très grands représentants de l'Aufklärung, donc le mouvement de lumière, on va dire, hein, ce qui correspond aux lumières, ce qu'on appelle les lumières en France, mais bon, Aufklärung, ça permet d'insister davantage sur l'idée de mouvement, c'est-à-dire de mettre en lumière, ou de sortir donc de l'obscurantisme. Et Schopenhauer, effectivement, est extrêmement influencé par Kant, il l'analyse, il le connaît très bien, et il prolonge pour la plupart ses thèses, la plupart du temps, il est parfois d'accord, parfois en désaccord, effectivement. Et dans l'ouvrage que je vous conseille, puisque le monde comme volonté et comme représentation n'est pas un ouvrage, déjà de par sa taille, dans l'édition que j'ai, ça fait 1425 ou quelques pages, donc c'est pas sur le plan du contenu, sur le plan du nombre de pages, c'est pas un ouvrage accessible. Par contre, un ouvrage que je vous conseille fortement, c'est Le fondement de la morale, Die Grundlage der Morale en allemand. Le fondement de la morale qui pour Schopenhauer n'est pas, comme le pensait Kant, dans l'intellect, dans une raison, comment dire, un peu trop abstraite, du moins du point de vue de Schopenhauer, mais qui se trouverait, l'origine et le fondement du sens moral se trouverait dans la pitié. On va revenir probablement là-dessus un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc Schopenhauer, auteur du 19e siècle, qui a commencé à écrire vers le début du 19e siècle et jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc le grand philosophe qui a consacré la postérité et qui donc était un concurrent de fait de Schopenhauer, quelqu'un qui lui est totalement contemporain, qui a écrit et enseigné exactement en même temps que lui, c'est Hegel, hein, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, avec effectivement la phénoménologie de l'esprit, son énorme ouvrage, enfin énorme sur le plan des pages et considérable également du point de vue de la pensée, du point de vue de la finesse et de la pertinence aussi, enfin, du moins c'est la philosophie, l'histoire académique de la philosophie qui l'a consacrée comme telle. Et Schopenhauer n'était absolument pas d'accord, il estimait que c'était des abstractions, que c'était des réflexions absurdes qui témoigneraient de la niaiserie allemande de son point de vue. Effectivement, donc Schopenhauer n'a pas été reconnu de son vivant, et même s'il est considéré comme un philosophe connu aujourd'hui, il n'a pas autant d'aura et autant de comment dire, de reconnaissance que Hegel justement et que Nietzsche justement de qui je vais encore dire quelques mots d'introduction avant de commencer véritablement le développement. Alors Nietzsche donc auteur lui aussi de philosophie évidemment plutôt lui vers la fin du 19e siècle donc à partir du milieu mais plutôt vers la fin donc c'est un auteur postérieur à Schopenhauer qui a été donc Nietzsche qui est philologue de formation, qui a une formation en philologie, donc les sciences anciennes, enfin les langues et les sciences anciennes, donc le latin, le grec, comme le montre son ouvrage à la fin de ses études, consacrant la fin de ses études qui s'appelle La naissance de la tragédie, donc Die Geburt der Tragödie en allemand, la naissance de la tragédie qui est marquée véritablement par l'État schopenhauerien et la très grande majorité du temps par un accord, par une prolongation des thèses de Schopenhauer. Voilà. Et donc effectivement, au fur et à mesure du temps, Nietzsche, qui n'était pas un philosophe académique, donc qui était philologue de formation, était donc un des principaux livres de philosophie qu'il a lu, c'est Le monde comme volonté, comme représentation, justement. Et effectivement, ça a imprégné sa vision du monde. Et par contre, le développement tardif de la philosophie de Nietzsche va peu à peu s'éloigner de Schopenhauer, va le récuser, pour des raisons que je vais expliquer un petit peu plus tard, je pense. Voilà. Donc, venons-en à Arthur Schopenhauer. Donc, je vous disais, le monde comme volonté, comme représentation. Et à la première partie que j'intitule, ou que j'intitulerai, ça n'a pas beaucoup d'importance, donc le rapport, enfin qu'est-ce que signifie volonté et représentation chez Arthur Schopenhauer? Alors l'idée c'est que donc notre accès au monde en tant qu'individu se fait par le biais de la représentation, c'est-à-dire par notre cerveau, bien sûr, nous avons un accès au monde. Nous nous représentons les choses, c'est-à-dire nous recréons une image par la rétine, etc. Mais également par comment dire, disons que c'est une idée qui est totalement inspirée de Kant, c'est-à-dire que chez Schopenhauer, c'est la raison qui ordonne le monde, qui met de l'ordre dans ce chaos, qui donc opère une synthèse, un jugement synthétique, c'est-à-dire qu'elle prend en considération une multiplicité de choses qui se succèdent dans l'espace et dans le temps, qui sont soumises donc à la loi de causalité, à l'effet et à la cause, à la succession. Et donc notre rôle d'individu, d'animaux rationnels, justement, par opposition aux autres animaux, ou bien sûr, évidemment, par opposition aux plantes ou aux minéraux, c'est-à-dire les êtres encore moins évolués, notre rapport au monde est un rapport de représentation. Nous sommes capables de comprendre le monde, ou du moins d'essayer, dans un premier temps, d'y mettre de l'ordre. Mais par la même, par le fait que nous nous représentons les choses, c'est-à-dire que nous créons quelque chose qui est distinct qui est distinct de la chose elle-même, ça veut dire que nous créons une représentation, donc ça veut dire que nous éloignons quelque part excuse-moi, Sébastien Orange, peut-être que ce sera plus simple plutôt qu'à la fin, on puisse discuter ensemble ou avec d'autres personnes, parce que oui, quand il y a des gens qui écrivent, ça me bloque un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, l'idée, effectivement, c'est que déjà, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que déjà, vu qu'on n'accède pas à la chose en tant que telle et que nous représentons la chose, ça veut dire qu'il n'y a pas un accès direct. Là, je vais rappeler une chose, c'est effectivement Kant, une de ses grandes distinctions qu'il fait, c'est la distinction entre le phénomène et la chose en soi, ou si vous voulez employer un autre couple de notions grecques, c'est donc le noumène et le phénomène. Donc le noumène, c'est la chose en soi, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce serait proche quelque part des idées platoniciennes. Si vous avez fait de la philosophie au moins en terminale, vous avez sans doute fait Platon. Et l'accès dans le ciel des idées, effectivement, aux réalités en tant que telles, alors que, chez Platon, les objets du monde ne seraient que des dérivés, des choses affadies. Voilà. Donc l'objectif, ce serait de s'élever et de pouvoir un jour accéder à cette essence. Effectivement, Kant nous déclare que la chose en soi est inconnaissable. Voilà, ça c'est la critique majeure, une des critiques majeures que fait Kant dans la critique de la raison pure, bien sûr. Avec l'idée, donc, la critique de la métaphysique, ce qu'il appelle la métaphysique, avec des gens qui seraient trop abstraits, comme la scolastique, sans doute, ou la philosophie de Leibniz, ou la philosophie de Wolff, qui seraient uniquement un raisonnement à partir de concepts. Et Kant estime que l'on a perdu l'intuition, c'est-à-dire qu'on a perdu le rapport à la réalité elle-même, et que quand on réfléchit en philosophie, il faut essayer de ne pas perdre de vue la réalité des choses. Et effectivement, vous avez des grands systèmes philosophiques comme Leibniz qui réfléchissent sur Dieu, sur la nature de Dieu, sur l'origine du monde, sur le fait que le monde actuel, le monde dans lequel nous vivons, serait le meilleur des mondes possibles parce que Dieu n'aurait pas pu créer un autre monde. Disons que, en gros, le fait, par exemple, de parler de Dieu, avec un grand D, donc de parler de Dieu, du divin, de la théologie, Tout ça relève, selon Kant, d'une réflexion sur la chose en soi, alors que nous n'avons pas de rapport avec ça. Donc ce serait un simple jeu de concept, un jeu de une argumentation, une argutie, quelque chose de totalement fallacieux. Donc Kant nous demande de retrouver ce rapport à l'intuition. Et Schopenhauer lui-même est relativement d'accord avec ça. Il est d'accord en tout cas pour totalement dissocier les deux. Le phénomène, le rapport des phénomènes, c'est-à-dire notre rapport que nous, en créant des représentations du monde, nous avons avec le monde des phénomènes qui apparaissent et disparaissent autour de nous, qui sont liés à la succession, alors que la chose en soi ne serait pas soumise au temporel, et peut-être pas au spatial non plus, enfin, ça en renvoie encore d'autres discussions. Voilà. Pour Schopenhauer, nous pouvons par contre avoir un accès à ce qu'il appelle la chose en soi, c'est-à-dire que nous pouvons voir la volonté avec un grand V, à travers notamment la contemplation artistique, et en particulier à travers la musique, qui serait selon lui l'expression directe de la volonté, avec un grand V. Là, je me dois d'expliquer le mot de volonté chez Schopenhauer, qu'est-ce que ça veut dire pour lui la volonté, puisque évidemment le mot de volonté, comme le mot de représentation, comme la plupart des mots que j'ai employés jusqu'à présent, le mot de volonté, ça veut bien dire quelque chose dans le vocable courant. Quand on parle de volonté, avoir de la volonté, etc., j'ai la volonté d'aller à la boulangerie, par exemple, ou ailleurs, ou de faire telle et telle chose. Pour Schopenhauer, ça ne veut pas dire ça. La volonté, donc, c'est avec un grand V. C'est donc une volonté qui n'est pas une volonté individuelle, qui n'est pas une volonté qui relève d'une conscience personnelle et individuelle. La volonté, c'est quelque chose, c'est un principe d'explication du monde. Et de ce point de vue-là, il y a déjà une influence, enfin, c'est ce que reprendra Nietzsche sous un autre nom, c'est la volonté de puissance, terme qui a fait couler beaucoup d'encre, mais ça, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc la volonté avec un grand V, pour Schopenhauer, ça veut dire, c'est une force aveugle. Une force aveugle du monde, mais qui n'est pas une force personnelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se représenter ça comme un dieu ou comme quelque chose d'incarné, comme un dieu personnel ou une réalité personnelle, ce serait une sorte de force aveugle qui se manifesterait et dont la vie serait une émanation. La vie, ce serait une émanation de la volonté. Et en tant qu'être ayant un appétit vers le monde, des gens ayant envie de faire telle et telle chose, de satisfaire nos besoins, ou même de satisfaire des besoins plus évolués, comme les besoins d'honneur, d'argent, de richesse, de reconnaissance, etc. Tout ça reviendrait au fond à l'idée de la volonté, qu'est donc la vie, que ce soit les pierres, que ce soit les animaux, que ce soit nous les êtres, nous viendrons de cette volonté avec un grand V. Voilà, selon Schopenhauer. Et donc lui, il estime que l'homme, par ailleurs, en dehors de cette manifestation de la volonté, a un intellect, une conscience, qui essaie tant bien que mal de diriger sa volonté de telle et telle manière, de se diriger soi-même de telle et telle manière. Mais selon lui, ce sera le point prochain que je développerai, il faudra renoncer à ça, c'est-à-dire que nous, en tant que nous sommes des êtres ayant un rapport qui émanent à la fois de cette volonté, qui font tout pour la prolonger, pour l'épanouir, etc., nous possédons un vouloir vivre, c'est-à-dire que nous avons une volonté à vivre, à s'épanouir, à continuer à vivre. Et pour Schopenhauer, c'est là est le problème. Voilà. Et bon, si j'ai été suffisamment clair sur ces premiers points, sur l'idée de la représentation de la volonté, donc pour lui, c'est le grand couple de notions qui permet d'expliquer l'homme, l'individu. Nous avons un rapport à la connaissance en tant que représentation. Que ce soit là, j'ai une table devant moi et un ordinateur, ça veut dire que c'est ma représentation qui me le donne, qui donne un rapport de connaissance aux choses. La volonté, l'idée que j'ai envie de vous parler, etc., que je suis un être dynamique. C'est l'expression de la volonté. En tant que vous m'écoutez ici, vous faites à la fois preuve de votre intellect, de votre faculté d'essayer de comprendre, de compréhension, mais en même temps, on est tous des émanations de la vie, de cette force aveugle qui se manifeste dans les êtres qui eux-mêmes ensuite obtiennent de la conscience. Alors, je ne sais pas si je suis suffisamment précis, suffisamment clair. Voilà, donc en gros, l'homme existe du point de vue de la connaissance comme représentation et du point de vue de l'action comme volonté, avec un grand V. Voilà. Voilà, donc maintenant le deuxième point, c'est donc que j'intitule le rapport d'Arthur Schopenhauer avec les religions. Voilà. Alors rapport qu'on ne peut pas méconnaître si on veut traiter un minimum sérieusement d'Arthur Schopenhauer, c'est de savoir qu'est-ce qu'il pensait des grandes traditions. Effectivement, les monothéismes d'un côté, et ce qu'on appelle paganisme de l'autre, que lui-même récusant ce terme de paganisme ou de polythéisme, pour lui mettre dans le même sac la philosophie et la tradition indienne, l'hindouisme donc, le brahmanisme, le bouddhisme, la religion grecque, enfin la religion polythéiste grecque, ce genre de choses, tout ça c'est totalement absurde. C'est les mettre dans le même panier, sous un terme qui ne veut pas dire grand-chose, qui vient d'ailleurs du mot paysan, au départ paganus. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Effectivement, de parler de paganisme pour lui, d'opposer ça au monothéisme. Par contre, les monothéismes, eux, du point de vue de Schopenhauer, constituent une filiation. C'est-à-dire qu'il y a une filiation à partir d'une première révélation, d'une première religion révélée, évidemment. C'est donc le judaïsme. Effectivement, comme vous savez, Nietzsche était un antichrétien convaincu et un philosophe qui a par ailleurs tenté et ébauché une critique plus vaste de toutes les religions, ses connaissances étant parfois un peu imprécises à mes yeux, ou du moins pas à la hauteur de sa connaissance de la Bible. Pour Schopenhauer, il y a donc le commencement dans la tradition humaine avec le judaïsme, de quelque chose de totalement particulier, qu'il récuse assez largement. Et je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Alors pour lui, il y a effectivement des grandes traditions, des grandes religions, qui ont à la fois accédé à la connaissance, à l'art, à des formes extrêmement développées de tous les points de vue, en peinture, architecture, sciences, mathématiques, etc. Et avant tout, il y a donc l'Égypte, la Grèce, bien sûr. Et également, Schopenhauer a une attention toute particulière pour les sagesses, religions, philosophie asiatique. Alors, on va y revenir, mais effectivement, il y a cette tradition que la, il y a cette tradition effectivement du logos. Hein, ceux qui sont familiarisés sur ce TeamSpeak ont entendu parler de la virtuosité de ce logos. Mais en tous les cas, effectivement, il y a bien cette tradition que l'hellénisme et la tradition égyptienne avait effectivement en vue avant tout la connaissance. Ce qui arrive avec du point de vue de Schopenhauer avec le judaïsme, c'est l'avènement donc d'un dieu personnel, d'un dieu vengeur. C'est l'avènement aussi du péché originel, quelque chose de relativement contestable du point de vue de Schopenhauer. Et voilà, donc selon lui, les trois monothéismes sont des philosophies créationnistes, donc des pensées, des religions, qui estiment que l'homme a été créé, donc au moment où nous naissons, à notre naissance, nous serions des êtres donc qui n'auraient pas existé auparavant. C'est-à-dire que notre âme et notre corps seraient créés en même temps. Par contre, du point de vue des monothéismes, je crois que là c'est assez incontestable, l'idée de la vie après la mort. Donc une fois que nous mourrons, notre vie serait éternelle et nous serions jugés, bien sûr, avec le purgatoire, l'enfer, le paradis, du point de vue chrétien du moins. Mais en tout cas, c'est un point commun selon Schopenhauer dans tous ces monothéismes, c'est qu'il y aurait une création comment dire, lors de la naissance, et qu'ensuite ce serait éternel. Pour Schopenhauer, c'est relativement absurde, puisque si on doit postuler l'éternité à partir de la naissance, donc à partir de la création, pourquoi à la rigueur ne pas penser que notre naissance serait une incarnation de quelque chose d'autre, c'est-à-dire d'une âme ayant précédemment existé. Pour lui, c'est ça, donc c'est véritablement sur ce point-là qu'il est très très intéressé par les philosophies tradition bouddhistes et brahmanistes, hindouistes, donc de l'Inde, etc. Et pour lui, donc, le bouddhisme et le brahmanisme, en parlant des âmes qui existent, qui s'incarnent, qui se réincarnent, ils ont touché à la vérité, du moins ils s'en sont relativement bien approchés, bien plus que les monothéismes en général, même si pour Schopenhauer, le christianisme a entrevu, et le judaïsme aussi d'une certaine manière, mais le christianisme aurait entrevu la vérité, du moins du point de vue de l'incarnation, mais que la pensée majoritaire, enfin les institutions dominantes, les institutions religieuses chrétiennes dominantes, qui sont réclamés du christianisme, ont finalement accaparé ce droit de parler des religions et ont interprété et donc ont récusé l'idée de la transmigration des âmes, bien qu'il faudrait du point de vue de Schopenhauer pas exactement parler de transmigration des âmes, mais je pense que ce serait un débat un petit peu trop subtil si on introduisait toutes ces nuances. Il faudrait parler de palingénésie. Voilà. Donc, il y a une très légère différence. Mais effectivement, le christianisme aurait été proche, à certains moments, aurait été tenté de le faire, notamment par saint Augustin, de parler d'incarnation du Christ, de réincarnation du corps dans le Christ, par exemple, comme dans tous les êtres. Et voilà. Et le judaïsme également aurait à un moment donné entrevu cette possibilité en pensant, car Schopenhauer estime que l'idée du péché originel au tout départ pouvait avoir un sens, mais que si on voulait accepter et donner une pertinence à cette idée de péché originel, il fallait en même temps reconnaître l'idée que si nous étions pécheurs au moment de notre incarnation, au moment de notre naissance, ça veut dire que nous devions ou que nous devrions payer comment dire, les pots cassés, comment dire, des choses que nous avions faites, des méfaits que nous avions commis lors d'existences précédentes. Mais malheureusement, selon lui, malheureusement, le judaïsme ne s'est pas dirigé vers ça, il s'est dirigé au contraire vers un peuple théiste, donc qui suppose un dieu vengeur, personnel, jaloux, comme le dit l'Ancien Testament. Effectivement, et donc les gens de notre mouvement sont parfois intéressés par cette question, mais effectivement Schopenhauer a produit une critique philosophique du judaïsme, et en estimant que le peuple juif était globalement très religieux, très sacerdotal, et avait peu d'autonomie de pensée, et restait acculé sur des textes, et dans une perspective tribale. Voilà. Bon. Et de même, le christianisme aurait perdu ou n'aurait pas réussi à totalement saisir des. Merci, Hussard. N'aurait pas réussi à totalement saisir l'idée, donc, par exemple, de la réincarnation, mais que par ailleurs, les institutions chrétiennes religieuses dominantes, l'Église dominante, n'auraient pas réussi à comprendre que le Christ était un homme de renonciation. Voilà. Et selon Schopenhauer, il faut comprendre le Christ comme bel et bien un beau symbole, quelqu'un qui était à l'origine de. Enfin, une personne évidemment exceptionnelle, quelqu'un qui aurait un parcours considérable, totalement digne d'attention. Il ne s'agit pas de rejeter Jésus en tant que tel, du point de vue de Schopenhauer, mais il aurait fallu se le représenter comme quelqu'un qui aurait souhaité détacher du monde et qui aurait souhaité aller vers la mortification, hein, Schopenhauer le dit clairement, il faut aller vers la mortification. Là, je vous ai dit dans la première partie, pour reprendre une distinction classique en philosophie, la première partie, Schopenhauer a expliqué comment c'est le monde, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est l'être, il a fait une analyse de l'être, qu'est-ce qui est dans le monde. Mais lui-même donne un devoir être, c'est-à-dire il donne une prescription, il donne un chemin à suivre, et ce chemin à suivre qu'il demande d'emprunter, c'est le chemin de la mortification, le chemin de l'ascétisme, mais qui doit déboucher sur la mort comme renonciation à ce principe de volonté aveuglante, puisque selon lui, la volonté qui se manifeste systématiquement comme force aveugle qui toujours engendre la vie, elle engendre en même temps la souffrance, la cruauté, la misère, la frustration. Et au-delà de donc Schopenhauer dans la tradition classique hein, de la philosophie qu'on retrouve depuis les Grecs chez Spinoza, chez Platon, chez d'autres évidemment, c'est la critique des honneurs, la critique des honneurs, la critique de l'argent bien sûr, et la critique des biens incoexis qu'on va employer pour employer un mot savant, c'est-à-dire des biens dont on n'a jamais assez. Donc Schopenhauer non seulement est sur cette ligne-là d'ascétisme, mais selon lui l'ascétisme doit aller vers la mortification, c'est-à-dire que nous devons nous rapprocher systématiquement de la mort. Et Schopenhauer en vient à faire l'apologie de la maladie, quasiment, puisque la maladie annulerait la volonté et annulerait l'humanité, finalement. Schopenhauer, par ailleurs, refuse, ça c'est un thème qu'étudiera Nietzsche aussi, refuse la solution du suicide. Pour lui, le suicide, ce serait finalement donner raison à la volonté, en souhaitant l'annuler directement. Pour lui, il faut au contraire donc suivre le chemin de l'ascète, du moine mendiant, qui a par exemple été incarné, selon lui, par saint François d'Assise. Hein. Donc, comme quoi, il n'est pas sur, il ne rejette pas intégralement le christianisme ou tous les saints du christianisme. Et saint François d'Assise, par exemple, effectivement, ce moine mendiant qui a suivi un chemin ascète extrêmement sévère. Donc, selon lui, il faut aller vers la mortification, ce qui est assez proche de ce que disait Fénelon. C'est-à-dire dans la doctrine du pur amour, c'est-à-dire qu'il fallait se sortir intégralement de l'égoïsme du point de vue de Fénelon, adorer Dieu et mieux l'adorer en souhaitant sa propre mort individuelle en tant que personne, en tant qu'individu, pour mieux s'unir de nouveau à Dieu. Chez Schopenhauer, il faut comprendre, j'ai peut-être pas dit quelque chose lors de la première partie sur la volonté et la représentation, c'est que selon Schopenhauer, notre rapport au monde, dont nous ne pouvons pas accéder à la connaissance intégrale, puisque notre rapport au monde est un rapport de représentation, donc nous ne pouvons pas accéder directement à la chose en soi. Donc de ce point de vue-là, il faut comprendre que Schopenhauer, il y a un voile de Maya, ce qu'il appelle le voile de Maya, c'est-à-dire que le monde autour de nous est un monde d'illusions, de tentations. Donc là, c'est la traduction christique, même pas seulement christique, pour lui aussi bouddhique, etc. Des traditions qui se rejoignent sur ce point-là, c'est-à-dire que le monde sera un monde de tentation, sera un monde d'illusion. Donc, pour Schopenhauer, ça veut dire que le monde est recouvert, enfin notre intellect, notre rapport au monde en tant que représentation est soumis et masqué par un voile de Maya. Donc, il faut déchirer ce voile en comprenant non seulement que le monde est un monde de tentation qu'il s'agit donc de récuser et puis aller vers la mortification, mais un autre point aussi, et on le trouvera chez Nietzsche, c'est que selon lui, selon Schopenhauer, l'individuation, c'est-à-dire le fait que nous sommes incarnés dans un corps particulier, que nous avons une individualité particulière, des identités, etc., selon lui, c'est faux. C'est-à-dire qu'au tout départ, le monde est un, avec un grand U, hein. Il est un, c'est-à-dire que c'est une unité du monde, chose que Nietzsche étudiera donc aussi également, et que selon Schopenhauer, nous faisons tous partie de la même espèce, mais nous faisons partie d'un tout commun qu'il s'agirait de retrouver. Et par exemple, dans l'étude que je vous ai tout à l'heure envoyée au livre très intéressant, Le fondement de la morale, donc pour Schopenhauer, le point de départ, le fondement de la morale, c'est la pitié. La pitié, ça veut dire que, du point de vue de Schopenhauer, lorsque nous éprouvons de la pitié envers autrui, c'est-à-dire que nous nous identifions à autrui, nous ressentons en partie à sa place les souffrances, et que par ailleurs, dans ce moment où nous ressentons de la pitié, nous nous défaisons d'une partie de notre individualité, de notre individuation, comme je disais, et que nous ressentons que nous faisons partie du même être. Et selon Schopenhauer, par ce processus de mortification, à la fin de ce processus de mortification, on atteindra finalement le retour dans le tout originel. Voilà. Voilà, donc j'ai dit donc quelques mots du rapport au judaïsme, au monothéisme en général, donc au christianisme qui selon lui est une tradition dévoyée, enfin qui est une tradition qui avait bel et bien une réalité, une virilité, tout ce que vous voulez, mais que des gens l'ont récupéré, et donc ça débouche sur un autre thème qui est un thème qui sera par excellence développé par Nietzsche, c'est la question du prêtre, le rôle du prêtre, hein, et en particulier dans le christianisme qui domine, qui se sert de son pouvoir, de sa fonction pour dominer, c'est du moins l'analyse que fait Nietzsche, la lecture que fait Nietzsche. Et effectivement, dans les monothéismes, donc par exemple, Schopenhauer récuse aussi l'islam comme avant tout une religion sanguinaire et violente. Et donc, il est quand même plutôt sceptique par rapport au monothéisme, mais il produit avant tout une critique philosophique du judaïsme. C'est le premier monothéisme qu'il critique avant tout. Et par ailleurs, il a un respect profond pour le reste. Donc, pour les traditions dites païennes ou polythéistes, c'est-à-dire tout le reste, traditions grecques, égyptiennes, etc., brahmanes évidemment, et bouddhistes, comme je vous disais. Voilà. Et donc, Schopenhauer se prétend être une des premières personnes en Europe à avoir fait connaître les écrits des Bouddhas, les Védas, etc., donc la philosophie bouddhique, avec en parallèle un universitaire hongrois, un certain Körösi, qui est mort assez jeune malheureusement, mais enfin bon, en tout cas pour Schopenhauer se prétend le porte-drapeau de cette tradition asiatique, de ces traditions asiatiques au pluriel. Voilà, donc j'ai terminé mon analyse résumée de Schopenhauer. Donc j'aimerais passer maintenant à la troisième partie avec une troisième partie plus centrée sur Nietzsche. Donc dans quelle mesure Schopenhauer a influencé Nietzsche. Et donc dans une quatrième partie, plus tard sera la dernière, j'essaierai de voir en quoi Nietzsche s'est détaché, plus vers la fin de sa philosophie, des thèses d'Arthur Schopenhauer. Alors, troisième partie, en quoi Nietzsche a été inspiré par Schopenhauer. Donc je vous disais tout à l'heure que la naissance de la tragédie, c'est le premier écrit de Nietzsche. Et premier écrit de Nietzsche, donc un texte de philologie avant tout, où selon Nietzsche, la tragédie grecque naît, arrive donc par la convergence de deux esprits qu'il appelle l'esprit l'esprit dionysiaque, donc le plus ancien, qui serait l'esprit de la démesure, qui serait symbolisé, ritualisé dans ces fêtes dionysiaques, les fêtes d'adoration à Dionysos, où les fidèles grecs joueraient de la musique avec les tambours, avec énormément de percussions, de la flûte, etc., où ils seraient en situation de transe. Et où il par le biais aussi de l'alcool, c'est ce qui a donné dans le monde latin ensuite l'adoration à Bacchus, hein, les bacchanales. Mais effectivement, Dionysos est une figure plus forte que Bacchus, puisque Bacchus est quand même une figure affadie par les Latins. Mais Dionysos, le rapport profond à Dionysos remonte très très loin en Grèce antique. Et Nietzsche avoue très clairement, en particulier aussi dans la suite de la philosophie, il se dira, moi je suis un disciple de Dionysos, et donc il opposera le christianisme, en particulier à Dionysos. Ça, c'est la fin de les dernières phrases de l'Antéchrist, de l'ouvrage L'Antéchrist de Nietzsche. C'est Dionysos contre le crucifié. Voilà. Enfin, en tout cas, pour revenir à la naissance de la tragédie, ce premier texte de Nietzsche, donc convergence entre deux esprits, l'esprit de Dionysos, qui serait selon Nietzsche l'esprit de la démesure, et l'arrivée de l'esprit apollinien, donc qui aurait affaire avec Apollon, dieu du soleil, et dieu aussi, selon Nietzsche, de la mesure, qui convergerait donc avec notamment le 6e siècle avant Jésus-Christ, 5e siècle avant Jésus-Christ, avec l'arrivée de l'aspect plus scientifique, plus mathématique, donc le rôle important joué par les mathématiques d'Euclide, de Pythagore, et par ailleurs, la philosophie elle-même, sachant que Socrate, qui est critiqué par Nietzsche, hein, bien sûr, enfin, en particulier plus tard, il n'est pas encore très très vigoureusement critiqué dans ce premier texte qui est La naissance de la tragédie. Mais en tout cas, effectivement, Socrate correspondra à une sorte d'apogée de l'esprit rationnel et scientifique. Ça va par... Donc c'est à la fois les mathématiques et la philosophie, en gros. Et donc la convergence de ces deux esprits, l'esprit de la mesure et de la démesure, engendrerait donc la tragédie grecque. Et dans ce texte, on voit énormément de citations. Je vais plus relever, je n'ai pas relevé précisément combien il y a de citations de Schopenhauer, mais il y en a énormément. Et effectivement, pour Nietzsche, l'objectif chez les Grecs, de très anciens donc mythes grecs, qui relèvent donc de cet esprit dionysiaque. Les de très anciens mythes grecs parlent donc de cette union, de cette grande un avec un grand U, où tout le monde entier existerait dans ce tout. Et effectivement, Nietzsche souligne que chez les Grecs existe ce mythe de Zagré qui est l'image de Dionysos qui a été décapité. Et donc il y a des cultes qui étaient faits à Zagré, où on espérait la reconstitution des membres et qui correspondrait à la reconstitution de tous les Grecs dans le même tout. Voilà. Et effectivement, Nietzsche parle également de l'individuation, c'est-à-dire du péché d'individuation, c'est-à-dire que le fait que nous soyons individués, nous soyons incarnés dans des individus différents, ça c'est aussi, selon Nietzsche, c'est quelque chose de très important dans la pensée grecque très très lointaine, aux origines de la pensée grecque, mais c'est aussi quelque chose qu'il emprunte à Schopenhauer, l'idée du voile de Maya, c'est-à-dire que non seulement pour Nietzsche, du point de vue de Schopenhauer, mais aussi du point de vue des Grecs, aux yeux des Grecs, existait donc ce voile de Maya, c'est-à-dire que les Grecs avaient aussi, selon Nietzsche, l'idée que le monde autour de nous, avec des objets, etc., était un monde trompeur et qu'il y avait autre chose qui allait au-delà de cette réalité, qui était très profond, voilà, qui s'inscrit pas dans une pensée monothéiste, vous l'avez bien compris, avec un ciel vengeur, enfin un dieu vengeur, etc. Bien. Pour ce qui est de l'influence de Nietzsche, on a parlé tout à l'heure donc de la critique évidemment des monothéismes, puisque Nietzsche, vous savez, quelqu'un qui a écrit L'Antéchrist, qui a centré sa critique des religions avant tout sur la religion dominante, la religion dominante en Europe, qui est le christianisme, en méconnaissant, ou en faisant, enfin, parce que vous savez que le père et le grand-père de Nietzsche étaient tous les deux pasteurs protestants, et Nietzsche était particulièrement rompu à la lecture de la Bible, c'était quelque chose qu'il connaissait parfaitement. Mais effectivement, Nietzsche n'a jamais véritablement fait de distinction entre catholicisme et protestantisme, car il s'agissait pour lui de la même essence. Et donc de quelque chose d'extrêmement négatif, selon lui, et en particulier négatif en raison du rôle du prêtre. Critique qu'avait ébauché Schopenhauer, C'est-à-dire que le prêtre a une fonction, un rôle, et qu'il s'en sert pour dominer, selon Nietzsche, pour dominer les âmes, les esprits, les maintenir dans l'ignorance et dans l'obscurantisme, et continuer comment dire, à engendrer et à faire se prolonger le même ordre social. Ça, c'est une des critiques essentielles. Donc Nietzsche disait, si vous n'êtes pas des saints de la connaissance, tâchez au moins d'en être les guerriers, par exemple. Donc il y avait l'idée quand même de la connaissance qui permettait de se libérer de l'emprise des prêtres et de l'emprise du monothéisme en général. Voilà, ça c'est une chose. Donc là, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez globalement. Hein, la critique par Nietzsche du christianisme, c'est en général quelque chose qu'on connaît assez bien. Donc je vous citais le texte évidemment, l'Antéchrist. Vous avez un texte comme Le Crépuscule des idoles, qui est aussi un texte extrêmement fort, extrêmement anti-chrétien, où Nietzsche se revendique de l'immoralisme, parfois de la lutte acharnée contre le christianisme et le christianisme moralisateur, ce qu'il appelait par exemple la moraline, c'est-à-dire la moraline, c'est-à-dire le souhait de la part des prêtres, de la part des gens en tout cas imprégnés de christianisme, de vouloir absolument systématiquement apparaître comme des gens moraux. Donc ça a beaucoup à voir avec l'hypocrisie sociale, avec la négation d'instincts plus profonds, selon Nietzsche, notamment l'instinct de connaissance, l'instinct de conquête, la volonté de puissance, même si effectivement il y a une récupération, je vous dis, politique qui a sali la récupération par les nazis du terme juste de volonté de puissance en lui-même. Et par ailleurs, le procès fallacieux évidemment qu'on a fait à Nietzsche, puisque Nietzsche n'a pas du tout connu l'époque du Troisième Reich, même pas l'époque de Weimar, on s'en faut, ni même le XXe siècle. Donc voilà, en tout cas, une critique extrêmement forte du christianisme, du rôle du prêtre, de la distinction entre l'enfer et le paradis, etc. Et vous savez aussi qu'il y a des passages qui sont pas non plus très tendres vis-à-vis des représentants du premier monothéisme de la communauté juive. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et donc, en tout cas, ça vient de Schopenhauer et il est totalement imprégné de ça. Donc, et puis par ailleurs, il y a, sur d'autres points, il y a beaucoup de choses qui sont héritées de Schopenhauer, mais auxquelles on fait moins attention, comme par exemple la faculté d'oubli, ce qu'on appelle la faculté d'oubli chez Nietzsche, on traduit comme ça en français. Nietzsche avait souligné le rôle positif de l'oubli dans le rapport que nous avons aux autres. C'est-à-dire que par exemple, si deux personnes s'énervent et s'engueulent, eh bien, le fait qu'elle puisse oublier la force avec laquelle et les mots qui ont été employés, les insultes, etc., puis en même temps la vigueur des sentiments négatifs, si les gens arrivent à l'oublier, à sortir de ça, Nietzsche y voit quelque chose de positif, alors que l'oubli, évidemment, est notamment quelque chose de négatif. Quand on oublie des connaissances, quand on perd des connaissances, donc on est moins savant. Mais pour Nietzsche, ça avait un aspect positif sur le plan du vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui venait déjà de Schopenhauer. Mais bon, ça fait partie des points minoritaires de la philosophie. Voilà, donc en tout cas, Nietzsche, lui, prétendait aussi, incarner une tradition sacrée. Enfin, il se référait lui aussi à des traditions dignes, et notamment donc l'esprit dionysiaque, ce que lui voyait dans l'esprit dionysiaque, c'est-à-dire dans un esprit très très lointain lié à la démesure grecque. Et Nietzsche, je vous ai dit, a tenté de débaucher une critique globale des religions en dehors du judaïsme et du christianisme. Il a souhaité étendre sa critique plus loin, avec notamment la critique de ce qu'il appelle l'esprit Chandala, du moins selon le texte, c'est-à-dire l'esprit, selon lui, relatif, qui serait l'équivalent de la moraline, qui serait l'équivalent du rôle négatif joué par les prêtres, du rôle de domination joué par les prêtres. Voilà. Très bien, je pense que j'ai pas le... Voilà, et par ailleurs, je vous disais que pour Schopenhauer, par la musique, lorsque l'on joue la musique et lorsqu'on en contemple des œuvres d'art, et notamment la musique, on peut avoir accès à une forme supérieure, puisque nous sommes dans un autre rapport au monde, et nous accédons, selon Schopenhauer, à une forme suprême qui serait la chose en soi. Là, nous pouvons avoir accès à la volonté en tant que telle. Voilà. Donc, chez Nietzsche, il y a aussi cette valorisation, notamment dans la naissance de la tragédie de la musique. Chez Nietzsche, dans la naissance de la tragédie, vous voyez aussi une critique du péché originel. Vous voyez une critique fondamentale du christianisme, déjà, enfin, tout est en germe dans la naissance de la tragédie. Dans ce point de vue-là, c'est très intéressant, mais ce qui n'est pas en germe, c'est le rejet. Donc là, ce sera mon lien avec la quatrième et dernière partie. C'est donc le rejet par Nietzsche de Schopenhauer. Donc je vous disais que Nietzsche n'a pas accepté, n'a pas pris à son compte le bouddhisme dont se réclamait Schopenhauer, du moins à partir de la compréhension que Schopenhauer en avait. C'est-à-dire que Nietzsche voyait aussi le bouddhisme comme un instrument de domination, et surtout dans la philosophie de Schopenhauer lui-même. Donc après l'avoir relu, je vous disais que c'est le livre Le monde comme volonté, comme représentation est quelque chose qui avait énormément marqué Nietzsche. Ça l'a marqué donc positivement puisqu'il s'en est servi, il a prolongé les thèses, il les a acceptées dans un premier temps, puis ensuite il les a rejetées. Parce ce qu'a fait Nietzsche, c'est qu'il a mis... De même que Nietzsche a rompu avec Wagner, par exemple, qu'il avait connu personnellement, après donc la représentation de Parsifal, que Nietzsche voyait être l'incarnation du nationalisme allemand, puisque Nietzsche n'était pas du tout un nationaliste, mais un patriote allemand. Enfin, si, enfin, il était anti-nationaliste, il était contre l'esprit, ce qu'en France on appelle l'esprit cocardier, il était anti-belliciste, on va dire, en gros. Et même si bon, la pensée politique de Nietzsche est quelque chose d'assez difficile à expliquer ou d'assez difficile à comprendre, bien, je reviens à ce que je disais. Schopenhauer, donc lui-même, n'était pas non plus un nationaliste. Hein. C'était quelqu'un qui était relativement critique par rapport à ce qu'il appelait l'esprit allemand. Il tenait en haute estime, par contre, Goethe, qu'il a connu personnellement. Mais voilà. Et pour revenir à ce que je disais, donc Nietzsche a critiqué le bouddhisme, et donc Nietzsche a mis Schopenhauer du côté du christianisme et du côté de toutes ces religions qui pour Nietzsche sont toutes négatives, parce que selon Nietzsche, Schopenhauer a donc terminé dans un refus de la vie, dans un refus de la vie, parce que je vous disais que Schopenhauer avait prôné la mortification pour sortir du pour sortir de la cruauté et de la souffrance et de la misère, et pour suspendre, pardon, cette force aveugle qu'est la volonté qui se manifestait, etc. Et donc Nietzsche est d'accord pour dire, d'accord, il n'y a pas de créateur, hein, il n'y a pas de créateur du monde, il n'y a pas de sens dans ce monde, c'est un monde très largement dénué de sens, mais comme ça, aller vers la mortification, se nourrir extrêmement peu, rentrer dans une forme extrême d'ascèse, tout ça, ça va trop loin, c'est pas possible, il faut continuer à aimer la vie, hein, et il faut, Nietzsche disait, j'en peux plus de ces fatigues de la vie. Parce que pour lui, cette fatigue de la vie était inspirée du christianisme avant tout. C'est-à-dire que même si Schopenhauer prétendait ne critiquer le christianisme et ne pas être chrétien lui-même, eh ben Nietzsche disait bah, il est quand même chrétien, il est quand même dans le refus de la vie, et il faut en sortir, il faut en sortir. Voilà. Bon, je pense avoir développé la plupart des aspects que je souhaitais. Je crois que cette quatrième partie permettait également d'accéder à une conclusion. Donc là, j'ai dû parler 42 minutes environ. Donc ça correspond à peu près à ce qu'a fait Shaman il y a 2 ou 3 semaines. Donc voilà, je vais arrêter cette intervention.